ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Et bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Et donc aujourd'hui on est avec Maëlle.
Bonsoir.
Donc qui est chargée de communication au service culture de l'UGA et qui va nous présenter un petit peu la programmation de l'ouvre-boîte. D'ailleurs j'en profite pour dire que c'est pas notre dernière émission avec Maëlle parce que maintenant l'ouvre-boîte font un programme tous les deux mois. Donc on risque de se revoir d'ici deux mois.
Oui, avec plaisir.
Pour présenter le programme. Et on est également avec Emeline Nguyen, donc la chorégraphe de la compagnie La Guetteuse.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et on va notamment parler du spectacle Même Pas Mal, qui est dans la programmation de l'ouvre-boîte ce mercredi 5 novembre.
J'ai le cœur qui se serre, le cœur à corps acide, là devant moi la scène. Dans la montée d'adrénaline et mon corps en passion attend le BPM. J'ai le regard avide, les yeux dans les pupilles, je ne suis plus moi-même. Je veux qu'on se défoule autant qu'on se déforme et je veux qu'on se prenne. Je veux ta peau, ton cul, tes yeux qui se souviennent. Je veux des pleines lunes, je veux qu'on se saigne.
Là, au-dessus du vacarme, dans la tranchée des flammes, quand la foule réclame, là, amour scandale. Là, au-dessus du vacarme, dans la tranchée des flammes.
Le cœur décélère dans la foule éphémère, je redescends à peine. Tombé d'adrénaline et d'un coup l'insipide, le sentiment du vide. Des flashs qui me tracent, des gens qui s'arrachent, je redeviens moi-même. Tant qu'un bout de nos corps danser jusqu'à l'aurore, c'est que j'en veux encore.
Là, au-dessus du vacarme. C'est les flammes, quand la foule réclame, là, amour scandale, là, au-dessus du vacarme, dans la tranchée des flammes, fais-moi l'amour scandale.
Pleine lune, je veux qu'on se saigne.
Là, au-dessus du vacarme, dans la tranchée des flammes, quand la foule réclame, là, l'amour scandale. Là, au-dessus du vacarme, dans la tranchée des flammes, fais-moi l'amour scandale. Là.
Je viens d'écouter Amour scandaleux de Liv Delestal, qui est au programme aussi de l'ouvre-boîte.
Oui.
Et du coup, d'ailleurs, Maëlle, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ouvre-boîte? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites, en fait, tout simplement?
Oui, tout à fait. Alors, l'ouvre-boîte, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la programmation culturelle 100% gratuite de l'Université Grenoble-Alpes. C'est une programmation qui est ouverte aux étudiants et aux étudiantes de l'université, mais aussi au grand public, donc voilà, les résidents et les résidentes de l'agglomération. On a des événements qui sont ouverts à tous et à toutes, des spectacles, notamment dans nos deux salles de concert à Est et à l'Amphidis sur le campus. On a aussi des concerts qu'on co-organise à Ève. Il y a des visites guidées et des expos sur le patrimoine de l'université. Voilà, une foule d'événements auxquels tout le monde peut participer. Et ensuite, on a aussi des sorties qui sont réservées aux étudiants et aux étudiantes. On les emmène au cinéma, au musée, voir du spectacle vivant dans les salles de l'agglomération grenobloise. C'est aussi des ateliers auxquels ils et elles peuvent participer. Ateliers théâtre, ateliers cirque, ateliers danse contemporaine, etc. Et c'est une programmation qui est renouvelée tous les deux mois. Donc tous les deux mois, vous pouvez retrouver de nouveaux événements sur le campus et ailleurs.
Voilà. Et donc du coup, c'est totalement gratuit. On a quand même besoin de s'inscrire quelque part.
Oui, en fait, la plupart des événements, ils sont sur réservation. Okay. Pour qu'on puisse avoir une idée du nombre de personnes qu'on va pouvoir accueillir. Mais vraiment, tout est gratuit et accessible.
D'accord. Et donc ça, on vous retrouve sur un site, sur Instagram ?
Alors, plusieurs façons de retrouver la programmation. Déjà, on a un petit programme papier, l'ouvre-boîte qu'on trouve sur le campus, dans les BU, dans les rues, etc. Dans les bibliothèques aussi de la ville de Grenoble.
Vous êtes partout.
On est partout, dans les boulangeries, dans les bars les plus cools de Grenoble, vraiment partout. Et ensuite, on est aussi présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, @l'ouvre-boîte UGA. Et on a un site internet culture de l'université sur lequel vous pouvez retrouver l'agenda de la programmation.
Ok. Voilà. Et moi, j'avais juste une question. C'est pas trop galère de trouver une nouvelle programmation tous les deux mois nouveaux artistes et de nouvelles choses à faire?
Alors ça, c'est un travail qui est fait par mes collègues chargés de projet,
ouais.
Qui travaillent d'arrache-pied l'année déjà précédente pour prévoir en fait la programmation sur toute l'année qui suit. Donc en fait, là, la programmation, elle est bouclée sur l'année 2025-2026. Mais ouais, c'est un gros travail et on peut leur tirer le chapeau.
On se doute que ce n'est pas parce que vous sortez un programme tous les deux mois que le programme n'est pas établi super en avance. Mmh. Et du coup, pour ce mois de novembre-décembre, est-ce que vous avez des événements un peu clés que vous souhaitez mettre en avant hormis le spectacle d'Emeline dont on va évidemment parler?
Oui, alors c'est le premier temps fort de la programmation novembre-décembre puisqu'en fait ce spectacle-là arrive le 5 novembre, donc dans deux jours. Un chouette spectacle qu'on est très contents et très contentes d'accueillir. Et un peu plus tard, dans le mois de novembre, on co-organise aussi avec l'association Retour de scène un concert donc à Ève, où on se trouve ici dans les bureaux de Radio Campus, qui accueille en fait un concert qui fait partie de la programmation Les Femmes s'en mêlent. Donc c'est plusieurs concerts dans plusieurs salles de spectacle de l'agglomération grenobloise et c'est des line-up en fait 100% féminins. Avec en tête d'affiche Livre d'Alestal qu'on a entendu tout à l'heure. Mmh. On a aussi le groupe de rock Copycat et la grenobloise Blue Laika. Donc concert gratuit, ouvert à tous, à toutes, sur réservation. C'est le jeudi 20 novembre, c'est à 20h30, c'est à Eve et ça va être chouette.
Et d'ailleurs, restez bien attentifs parce qu'on va sans doute aussi avoir une émission sur ce festival.
Trop bien.
Bah ouais, cool. Voilà, on est en train d'envoyer des messages aux artistes pour savoir si elles sont intéressées pour faire une interview avec
chouette.
Nous.
Chouette, chouette.
Donc restez connectés à la radio pour écouter tout ça.
Trop bien. Donc gros concert le 20 novembre. Je peux aussi vous parler d'une des sorties étudiantes qui va être assez chouette. Ça aura lieu le 3 décembre. C'est la nuit de la Lys. C'est une visite un peu particulière en fait, du muséum de Grenoble qui va se faire dans le noir complet, à la lampe torche ou à la lumière du téléphone. Et donc voilà, le but c'est de se faire un petit peu peur, un peu des frissons et d'aller découvrir les animaux empaillés, les collections du muséum.
Un peu ambiance nuit au musée.
Voilà, c'est ça. On espère que personne ne se réveille de son sommeil éternel ce soir-là, mais ça va être chouette et intéressant. Et je peux aussi vous parler de l'opération Noël au cinéma. On offre 200 places de cinéma aux étudiants, aux étudiantes, valables à la Cinémathèque, au club ou à Montciné à Saint-Martin-d'Air. Donc voilà, si vous êtes étudiant, étudiante, n'hésitez pas à venir chercher vos places gratuites à Est.
Et juste avant que je me mette à questionner Emeline sur tous ses projets. Là, vous avez parlé, je trouve plus mes mots, du festival. Vous avez également le spectacle d'Emeline. Est-ce que vous avez une volonté d'une programmation qui est quand même un peu engagée?
Oui, alors en fait, notre cible principale, c'est quand même les étudiants et les étudiantes de l'université. Donc on essaye de choisir des spectacles et des événements qui tournent autour des questions que ce public-là se pose en fait aujourd'hui. Donc des questions de genre, des questions d'égalité, d'écologie, de démocratie. On a accueilli un super spectacle de la compagnie Salgamine qui s'appelait Les vins de Tatté soulève-toi autour du greenwashing qui était super chouette. On a accueilli un spectacle sur la démocratie il n'y a pas très longtemps non plus. Enfin voilà, on essaie vraiment de choisir des sujets qui intéressent en fait ce public-là, oui. Jeunes et étudiants.
Qui intéressent et qui donnent envie de venir voir les spectacles, mine
et
de
qui
rien.
Qui les amènent à réfléchir.
Ouais. Qui donnent du sens au final aussi.
Carrément.
Ouais. Parce que des fois, les programmations culturelles, des fois. Quand il n'y a pas de message derrière, on n'a pas forcément envie d'aller les voir. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Moi, je vais souvent voir les choses parce qu'il y a un sens. Et du coup, voilà, c'est vraiment cool, je trouve. Ça, c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que c'est vraiment cool aussi d'avoir une programmation engagée pour les étudiants. Voilà, et on va embrayer sur une deuxième pause musicale avec du coup une musique de Copycat qui s'appelle Oulala.
Je me sens pas hyper à l'aise, je vais pas mentir, je suis pas au top, la gueule en vrac depuis ce matin. Des ch'tards plein la tronche, j'ai mal partout, je suis fatiguée. Je fais pas de sport et mes repas c'est du café. Les yeux bouffis, humeur de merde, ventre gonflé et SPM BK de la veille qui passe pas bien. Je le savais, il pleut dehors et faut que je sorte. Rendez-vous avec mon psy dès les premières secondes, il me dit oulala. Gérer une carence en vitamine D. Faut pas trop se laisser aller, sinon c'est des primes assurées. Jus de fruits détox, gommage du corps. Pas de gluten, pas de lactose et juste 3 cuites par semaine. Je manifeste du positif, la loi de l'attractivité. Développement personnel, méditation. Je suis rodée sur Insta. On dirait que j'ai une vie de star. J'en visite à ma daronne, je passe la porte. Elle s'étonne. Qualité.
Et on est toujours sur la 90.8, vous écoutez toujours la radio du campus. Et là maintenant je vais me mettre un peu à questionner Emeline. On va un petit peu parler de toi au début avant de parler peut-être de la compagnie. Donc comment est-ce que tu es devenue chorégraphe un peu, ton parcours de vie, comment t'en es arrivée là où t'en es aujourd'hui?
Eh bien, donc j'ai un parcours un petit peu atypique parce que j'ai pas commencé à être chorégraphe dans ma vie. Bien que j'en avais envie, mon milieu familial m'a pas permis d'aller dans les grandes écoles de danse. Et du coup, j'ai été plutôt orientée vers une carrière digne de ce nom. voilà, avec pour mes parents un métier qui donne de la sécurité financière et pour eux, le métier de danseuse, chorégraphe. Enfin, à l'époque, quand j'étais jeune, je voulais plutôt être danseuse. Leur mettait de l'insécurité. Donc j'ai été plutôt orientée dans un travail autour du mouvement, mais voilà, j'ai fait des études de kinésithérapie. Donc j'ai travaillé en tant que kinésithérapeute pendant 7 ans. Et bon, malgré mes plusieurs tentatives d'arrêter pour faire vraiment ce que je voulais faire, voilà, c'était trop compliqué. Enfin, d'assumer ça auprès de mes parents. Et puis, voilà, à 28 ans, je me suis quand même dit que je voulais faire ma vie à moi et pas celle de mes parents.
Il y a eu un déclic.
Oui, il y a eu un déclic parce qu'en tant que kiné, je voulais me rapprocher de la danse. Et du coup, j'ai voulu entreprendre des études d'ostéopathie pour avoir un rapport plus fin au mouvement et d'être en contact avec les danseurs et danseuses davantage. Et les danseurs et danseuses davantage vont plus voir des ostéopathes que des kinés, en réalité. Donc voilà, j'ai commencé des études d'ostéo et quand j'ai compris que j'allais mettre beaucoup d'argent et beaucoup de temps dans cette formation supplémentaire qui allait aussi du coup... me donner moins de temps pour danser du point de vue amateur. Du coup, je me suis dit que c'était pas ça que j'avais envie. Et je me suis dit, tiens, si je mettais tout cet argent que j'avais pensé mettre dans une formation d'ostéo et tout le temps de travail, d'études, si je le mettais au profit de la danse, voilà, assez vite, ça m'a fait un grand oui. Du coup, dans ma carrière de kiné, j'ai choisi de faire de la place à des temps dédiés pour me former à la danse. Et de créer. Et puis, c'est comme... donc, commencer une carrière de danseuse à 28 ans, c'est pas facile, parce qu'il y a la question de la légitimité. Je sortais pas d'une grande école. Voilà, mais j'avais les crocs. j'avais vraiment envie. Donc, j'ai testé des choses. J'ai commencé à créer. Et puis, je crois que j'ai fait des bonnes rencontres. J'étais au bon endroit, au bon moment. Et les choses se sont ouvertes pour moi. Et voilà, petit à petit, j'ai monté une compagnie, alors qu'elle n'était pas la compagnie la guetteuse à l'époque. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de faire des mini-créations qui sont devenues des plus grosses créations et qui, petit à petit, m'ont fait connaître le milieu institutionnel de la culture et de la danse contemporaine. Donc voilà, suite à ça, d'apprendre sur le tas... après, j'ai commencé à travailler avec des compagnies un peu plus renommées que la mienne, et du coup, qui m'a fait valider que j'avais une place dans ce milieu. Et c'est là que j'ai arrêté mon métier de kiné et où je me suis vraiment lancée. Et voilà. Et depuis, c'est vrai que j'ai fondé ma propre compagnie, donc la compagnie La Guetteuse. Il y a plein de choses qui s'ouvrent pour moi, qui sont très belles, et je me sens très chanceuse de pouvoir réaliser ce métier dont je rêvais.
Ouais, mais du coup, le métier de kiné, vous l'avez abandonné, enfin, c'est une façon de parler, mais vous avez arrêté de faire ça assez tard, finalement, par rapport au moment où vous avez commencé à vous dire « je veux faire de la danse ».
J'ai tuilé pendant un an, je me suis dit « bon, je connais rien de ce milieu professionnel, parce que danser dans le cadre amateur et en faire son métier et gagner un salaire avec ça, c'est aussi comprendre toute une... dynamique de projet et comment c'est de se faire rémunérer avec ce travail. Donc je me suis donné un an pour déjà me former, tester, créer des choses. Et en fait, je vois qu'il y avait déjà quelque chose qui a pris en un an. Et ça m'a permis d'être assez en confiance pour arrêter. Et j'ai assez rapidement obtenu ce statut d'intermittent du spectacle qui a été rémunérateur pour moi depuis. Okay. Alors, à plein temps, oui, intermittent du spectacle,
oui.
Ça reste des alors, ça dépend. Quand on porte une compagnie comme la mienne, c'est un boulot à plein temps, dans le sens où, du coup, tous les temps qui ne sont pas au plateau ou en répétition ou en création, il y a tout le temps de réflexion, des dossiers, des recherches de subventions qui font que ça remplit vraiment mon planning à fond. Mais voilà, donc je bosse Aujourd'hui, je bosse qu'avec la compagnie Aguetteuse parce que j'ai plus le temps pour d'autres, mais à une époque, je composais aussi avec d'autres compagnies, les compagnies avec qui j'étais seulement danseuse interprète et puis mes propres projets que je portais.
Ok. Et pour revenir un peu au début, vous aviez vraiment genre une passion de la danse et vous avez continué à danser même en... Vous avez toujours dansé en fait ?
Oui, moi j'ai commencé assez tôt, assez jeune. Donc la danse, bon, je sais pas, c'était à 5-6 ans. Enfin, je faisais voilà, l'école de danse du quartier, quoi. Mais assez rapidement, j'ai pris goût. Du coup, je suis rentrée au conservatoire de Nantes à l'époque où j'habitais là-bas. Et du coup, oui, voilà, j'ai toujours soutenu quand même un engagement fort pour cet art, malgré les études, malgré mon métier. Voilà, j'ai toujours continué à travailler ma pratique corporelle, qui était de toute façon un exutoire, comme une nécessité de faire ça pour ma santé mentale et physique. voilà, donc j'ai toujours mené ça en parallèle de manière très très forte, jusqu'à ce que je comprenne que j'avais envie de faire ça ma vie entière.
Oui, que c'était ça et rien d'autre en fait finalement.
Voilà, que j'avais pas envie d'attendre le week-end et des vacances pour danser, mais que c'était plus fort que ça. J'avais envie de dédier plus de temps à ça.
Et pourquoi vous avez appelé votre compagnie La Guetteuse ?
Eh bien, parce que moi je suis quelqu'un d'assez observateur. Enfin, Je suis quelqu'un qui guette le bon moment pour faire les choses. Et je pense que c'était aussi une façon de me lancer dans la danse. Et voilà, j'aimais bien cette idée d'être en déséquilibre, d'être en attente de quelque chose et signaler quand il y a quelque chose à faire. Donc cette idée de guetteuse, alors déjà j'avais envie que ce soit un nom féminin qu'on n'entende pas. Parce que les guetteurs, bah voilà, il y a plusieurs façons de définir un guetteur. Donc il y a bien sûr les guetteurs qui vendent de la drogue, mais il y a aussi les guetteurs des ports, des phares. Les guetteurs, c'était des personnes qui et des hommes qui guettaient les bateaux. Et du coup, voilà, c'était pas du tout un métier féminin. Et j'avais envie déjà dans mes recherches. Du moment de rendre un nom, un métier masculin, dit masculin, de le féminiser. Donc il y avait à la fois cette idée d'observation qui est un peu en déséquilibre sur l'action et une envie de féminiser un mot.
Très bien. Et en revanche, il me semble que votre compagnie est mixte, il me semble, ou vous n'avez que des femmes dans votre compagnie ?
Alors, donc la compagnie, elle est dirigée par moi. Après, il y a toute une équipe qui travaille dans l'ombre, donc administratrice, chargée de production, chargée de diffusion. Donc, c'est toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre qui permettent qu'un spectacle puisse voir le jour. Et après, en fonction des projets de la compagnie, des créations, il y a des interprètes féminins ou masculins. Et dans mes premières créations, j'avais choisi effectivement de faire des créations exclusivement féminines. Donc c'est le cas des deux premières créations de la compagnie qui sont spectacle Louve et Rouge Carmin, d'ailleurs, qui sont passées à l'ouvre-boîte ces années précédentes. Et du coup, il y a à la fois une équipe artistique et technique et musicales qui sont à chaque fois, voilà, que j'ai choisi comme créatrice en comprenant aussi que le milieu artistique est pour certaines casquettes assez masculine, notamment le milieu technique.
Oui. Oui,
donc j'avais envie de m'entourer de femmes pour les projets, particulièrement avec le sujet de ces pièces.
Surtout, vous faites des projets qui sont très engagés. Bah, là, avec votre spectacle, donc, bon, qui n'est pas d'une équipe féminine, pour le spectacle, alors, même pas mal.
Oui, alors l'équipe d'interprètes est masculine.
Oui.
Par contre, l'équipe de création est féminine. Du coup, moi, à la chorégraphie, Véronique à la création lumière et Maud à la scénographie. Donc, l'équipe de création, de direction, d'une certaine manière, est féminine.
Oui, c'est... Les gens qui tirent un peu les ficelles sont, C'est les femmes.
En tout cas, voilà. Après, ce qui ne veut pas dire qu'on prend toute la place, et je suis très à l'écoute des danseurs de l'Europe Force de Proposition. Mais en tout cas, dans la trilogie, parce que même pas mal s'inscrit dans une trilogie,
oui.
Une trilogie qui s'appelle Façonner, qui s'écrit façonner.es d'une façon inclusive, qui du coup, cette trilogie parle de comment on est façonné par... des choses qui nous entourent, parce qu'on voit si on est dans un corps de garçon ou si on est dans un corps d'une fille, et du coup de comprendre en fait quels sont les rôles attribués en fonction de ça. Et du coup voilà, donc cette trilogie là donc volet même pas mal, c'est le troisième volet, donc j'avais aussi envie d'interroger la question de c'est quoi la place des hommes là aujourd'hui dans le monde, là, avec quoi ils se construisent aujourd'hui en 2025, quels sont leurs modèles, c'est quoi leurs modèles avec lesquels ils se construisent, est-ce qu'on est encore dans la figure de mâle alpha, ou alors est-ce qu'on a d'autres modèles de figures déconstruites. Donc voilà, j'avais envie d'interroger plusieurs hommes, danseurs, sur cette question-là. Et donc j'ai choisi trois danseurs très très différents entre eux, qui ont permis de nourrir cette réflexion qu'on a mis en commun là, pour cette pièce, même pas mal.
Bah, très bien. Et mais du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, on va écouter un extrait de reportage qui vient d'Arte, qui s'appelle « La masculinité mise à mal », avec donc pas mal d'extraits sonores sur ce dont tu viens de parler.
Ce discours de la crise de la virilité, il est presque aussi ancien que la virilité elle-même.
On a ce discours de la crise de la masculinité, et c'est un discours qu'on peut retrouver, c'est assez incroyable, hein, dans n'importe quelle sphère culturelle, religieuse, n'importe quel type de régime politique, de régime économique.
Toujours cette idée que, avant, les hommes étaient des vrais hommes et pouvaient être des vrais hommes, mais attention, c'est en danger. Et il faut absolument réaffirmer la virilité, la réinventer, pour qu'elle puisse à nouveau dominer.
Comment sait-on qu'on est viril en réalité? On n'est jamais assez viril, il y a toujours plus viril que soi.
On voit tout de suite le piège, c'est-à-dire qu'on associe la puissance à la masculinité.
La virilité n'est jamais achevée, elle est toujours en devenir, c'est toujours une quête. Elle est un idéal impossible à atteindre. La naissance du mythe viril, c'est avant tout la naissance d'une hiérarchisation des sexes, parce que c'est ça qui prend naissance à l'Antiquité.
On leur enseigne à être durs, en fait. On leur apprend à ne pas exprimer leurs sentiments, ne pas les écouter, parce que pleurer, c'est pour les filles, être sentimental, c'est un truc de chochotte.
Donc voilà, donc un petit extrait de documentaire que... Moi, personnellement, j'ai regardé en entier et il est vraiment pas mal. Donc, c'est La masculinité mise à mal de Arte qui interroge surtout l'aspect viril qu'on a donné aux hommes depuis l'Antiquité, surtout les espèces de schémas qu'on reproduit. Bah, exactement ce que vous venez de dire, en fait, Emeline. Mais du coup, vous en avez un peu parlé, mais c'est vraiment important pour vous d'aborder le genre dans vos spectacles.
C'est sûr que c'est en ce moment on entend beaucoup parler. Au tout départ de ces recherches-là, j'étais plutôt en train de chercher, moi, qu'est-ce qui pouvait me donner de la puissance, comment je trouvais ma puissance à moi en tant que femme dans ce monde-là, en tant qu'artiste, mais aussi dans mes sphères sociales. Et du coup, j'ai commencé à chercher ça et j'ai été curieuse de plein d'essais féministes. Donc, j'ai cherché des choses et donc je suis partie sur la création qui s'appelle Louve, qui est un duo avec une chanteuse qui s'inspire des figures de sorcières. Donc, les sorcières du Moyen-Âge, mais aussi les sorcières aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles seraient des femmes qui sont, transgressives par rapport à ce qu'on pourrait imaginer d'une femme. Et donc, je me suis intéressée au rôle qu'on pouvait prendre et à toutes nos pensées liées à un héritage culturel qu'on avait. Et donc, du coup, je me suis lancée sur cette création qui vient trouver les endroits d'empuissancement. Donc, ça a été une des premières étapes de cette trilogie.
Et donc pour moi, c'était pas une volonté de travailler sur le genre, c'est moi, ma recherche actuelle là, elle m'a menée sur ce travail de qu'est-ce que ça veut dire être femme et prendre une place dans ce monde avec la place qu'on a envie de prendre. Et donc pendant cette création, j'ai beaucoup lu de choses, et notamment le livre de Mona Chollet qui s'appelle « La sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et puis, pendant cette création Louvre, donc, j'ai lu un autre livre, qui s'appelle « Ceci est mon sang » d'Élise Thiébaud, qui parle de l'histoire des règles, des menstruations depuis la nuit des temps, et comment finalement ce sang est devenu tabou au fur et à mesure des décennies, des siècles. Et du coup, je me suis dit « Waouh !» Ça m'a ouvert les yeux sur un autre sujet qui est le tabou des menstruations, et je me suis dit « Je vais en faire un spectacle ». Et donc est né ce deuxième volet de la trilogie qui s'appelle Rouge Carmin, qui est donc un quatuor de danseuses sur la question du rapport aux menstruations. Et donc, à l'issue de cette création, j'ai senti qu'il y avait aussi un endroit d'intime masculin, que j'ai senti que les hommes avaient aussi envie de s'exprimer sur c'était quoi leur rapport à leur construction et quelles injonctions ils avaient en permanence sur la virilité. Et donc ça m'a rendue curieuse de chercher davantage sur ce sujet, et donc j'ai choisi d'en faire une création qui s'appelle même pas mal, que vous pouvez voir après-demain, voilà, si je fais le lien avec l'ouvre-boîte.
Merci. Et du coup, ce travail de recherche justement pour ce spectacle-là, il s'est fait comment ?
Alors, ben voilà, moi, c'est comme l'extrait de Arte, là. J'ai écouté beaucoup de podcasts, j'ai écouté beaucoup d'émissions, lu des livres sur les masculinités. Et du coup, c'est un sujet de recherche. Mmh. Et d'ailleurs, j'ai toujours pas fini de creuser tout ce qui est écrit. Enfin, il y a vraiment une grosse... bibliographie qui peut avoir sur la question des masculinités et des injonctions de la virilité, qui est très intéressant. Du coup, voilà, je me suis basée à la fois sur des différents médias qui m'ont donné de l'inspiration et qui ont été source aussi d'inspiration pour les danseurs, puisque pendant la création, on commençait nos journées par écouter un podcast sur une thématique autour de la virilité ou sur une thématique autour de la masculinité en général. Et donc, on commençait nos journées comme ça, en écoutant un bout de podcast. Et à la suite de ça, on se retrouvait pour échanger sur qu'est-ce qu'on avait entendu, à quoi ça nous faisait penser à la fois dans nos vies, dans nos rapports sociaux. Moi en tant que femme, eux en tant qu'hommes, danseurs. Et du coup, ça a été aussi assez intéressant de mettre en partage nos expériences personnelles qui ont alimenté le travail de recherche.
Et est-ce que, bon, du coup, si je comprends bien, tu n'avais pas forcément pensé ça comme une trilogie
exactement,
à la base.
Exactement.
Mais est-ce qu'au final, tu es satisfaite de ce que ça a donné ?
Bah bien sûr, voilà, c'est la question, est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on fait en création?
Oui, c'est
souvent, voilà, parce qu'on est tous et toutes assez perfectionnistes, il me semble, dans ce milieu-là. Et du coup, on pourrait toujours faire et refaire et faire mieux. Après, voilà, c'est vrai que moi, je ne pensais pas du tout partir sur une trilogie en me lançant sur ce type de sujet. C'est plutôt une création qu'en a amené une autre, parce que mon fil de réflexion a cheminé pendant ces 6 années de création, de ces 3 créations. Donc avec du recul, je suis assez fière d'avoir signé 3 créations très engagées sur le genre. Si je les refaisais là aujourd'hui, en 2025, bientôt 26, je les referais différemment, parce que il y a plein de choses qui évoluent, ça, tout va très vite aussi par rapport à cette question du genre, des perceptions, et puis aussi le fait d'avoir tourné ces pièces, d'avoir les retours du public, ça donne des pistes de changement. Et puis après, il y a le temps combien de temps on se met
en recréation d'une création qui est créée depuis 2020.
Oui.
Louvre, par exemple, date de 2020. Elle tourne encore, mais les recherches datent de 2018-2020. Donc, c'était avec mon état de ce temps-là. Ouais. Et depuis, j'ai glané encore d'autres informations.
Oui. T'as évolué.
J'ai évolué. Donc, les spectacles évoluent, mais ils sont créés à une certaine date. C'est comme les livres, en fait. Les livres, des fois... il y a un livre, il date de 1980 et on sent qu'il date de 1980. Bon, là, c'est un peu plus courant temps, mais c'est écrit comme ça.
Il y a des choses qui vieillissent d'une façon ou d'une autre en fonction de l'évolution de la société.
Exactement. Après, dans Louvre, c'est un conte un peu intemporel, donc on ne sait pas trop où est-ce qu'on se situe en termes de temporalité. On ne sait pas si on est dans le milieu animal ou dans le... ou dans des ancêtres, ou alors dans un truc futuriste. Enfin, ça évolue entre le réel et l'actuel, le réel, l'actuel et le passé. Donc on fait des allers-retours comme ça. Donc il y a un truc autour du fictif qui est assez ou du comment fictif ou onirique, je sais pas. Donc qui peut décaler de la réalité. Donc et finalement cette pièce, elle fonctionne toujours parce qu'elle est assez intemporelle, c'est ce qu'on se dit, en fait.
Et est-ce que vous avez des projets futurs ou est-ce que pour l'instant, la trilogie de spectacles, c'est suffisant?
Alors, après la trilogie, on a fait un duo avec un des danseurs de même pas mal, d'ailleurs, qui s'appelle Erwin. Un duo qui s'appelle Tempest, sur la création sonore de Kay Tempest, qu'on tourne là depuis ce printemps.
Vous avez joué au musée de Grenoble.
On a joué au musée de Grenoble il y a pas longtemps, en septembre. On a joué aussi au festival Ouverture Exceptionnelle là sur Grenoble en début octobre.
Qu'on couvrait aussi avec Radio Campus.
Ok, et du coup, ça c'était une envie à la suite de la trilogie qui est quand même c'est des créations qui sont lourdes techniquement, avec un gros temps de montage. Et là, j'avais envie d'un truc plus léger, dans l'espace public. On n'a pas besoin de... Voilà, on a très peu de scénographie. Donc, c'est léger. Et du coup, et changer de contexte aussi, de sortir des théâtres. Et donc, ça a été notre projet juste après la trilogie. Et puis là, pour la suite, oui, on est en train de cheminer pour une création 2027. Parce que tout se crée 2 ans avant que les spectacles sortent.
Il faut bien anticiper.
Il faut anticiper, ouais, c'est ça.
Très bien. Eh bien, est-ce que Maëlle, tu as des questions à poser à Emeline ou est-ce que c'est tout bon?
Non, je crois que j'ai plus de questions. Elles ont toutes été posées.
Moi, je vais juste réagir parce qu'il me semble que j'ai lu le dossier du spectacle et qu'il y avait un projet d'escape game.
Oui.
Aussi, avec tout ce spectacle. Donc vous faites aussi un atelier participatif, en quelque sorte.
Alors, j'aime bien, quand je crée, trouver une façon de rendre inclusif les créations, et c'est-à-dire de rendre dynamique le rapport au public avec les artistes. Et du coup, je crée des outils de médiation, assez ludique par rapport aux thématiques abordées des spectacles. Et donc pour même pas mal, on a créé effectivement un escape game sur la thématique des stéréotypes de genre, qui tourne en parallèle du spectacle. Et je crois qu'il y aura un escape game qui est programmé tout début mars ici sur le campus.
Ok, très bien, merci. Et ben maintenant on va écouter le teaser de même pas mal qu'on est allé pêcher sur votre site.
Ok.
Thank you.
On vient d'écouter le teaser de Même pas mal, avec la voix de la chanteuse qui chante dans le spectacle Lou. Et on va tranquillement aller vers la fin de cette émission. Mais donc je crois que Maëlle, elle avait un petit spectacle à nous présenter.
Oui, oui, j'ai un spectacle à vous présenter, puisque le spectacle Même pas mal est complet en fait. Vous pouvez toujours essayer de vous inscrire sur une liste d'attente, mais si vous voulez venir à Est voir un chouette spectacle, la semaine prochaine, le mercredi 12 novembre, on accueille la compagnie AIAA pour un spectacle qui s'appelle Madame, Monsieur, Bonsoir, qui est un spectacle autour des médias, du journalisme, voilà, une comédie assez humoristique. Autour de ce thème-là, n'hésitez pas à venir et à réserver.
Et d'ailleurs, donc j'espère ne pas dire de bêtises, mais si j'ai tout bien compris, Même pas mal, ils font aussi un spectacle ce vendredi soir. Donc celui-là, je ne sais pas s'il est complet ou pas.
Au grand angle.
Voilà, donc c'est au grand angle. Donc si ça vous intéresse, allez peut-être vous renseigner, peut-être qu'il reste encore des places. Et du coup, merci beaucoup d'avoir été avec nous, donc merci Maëlle.
Merci à toi.
Donc merci Emeline, même si elle a dû partir parce qu'elle avait des impératifs. Et merci beaucoup Liam d'avoir fait notre technique.
Merci Liam.
C'était top. Et on vous donne rendez-vous donc, peut-être la semaine prochaine, malheureusement pas mercredi, mais peut-être la semaine prochaine.
Oui.
Pour le spectacle. et avec Maëlle, on se redonne rendez-vous pour dans 2 mois, voilà, quand on aura une nouvelle émission et une nouvelle artiste à vous présenter.
Tout à fait.
Voilà. Bonne soirée.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble !
Sur quoi ?
Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8.
Oui.